Please, Dr. Joaquin.
Thank you, Zena, for the introduction. Je tiens aussi à remercier, je vais parler en français, mais mes slides sont en anglais. Je tiens aussi à remercier les laboratoires Boehringer de m'avoir invité à venir vous parler de la prévention des exacerbations de BPCO. Le concept de BPCO a beaucoup évolué au cours de ces dernières années et d'après les dernières recommandations de Gold, la BPCO est considérée comme une maladie qu'on peut prévenir et traiter. Elle est caractérisée par une limitation progressive des débits aériens. Il s'y associe une réponse inflammatoire pulmonaire anormale à des toxiques inhalés. Et vous voyez dans la définition de Gold que les exacerbations et les comorbidités contribuent à la sévérité de la maladie. La BPCO est un problème majeur de santé publique dans le monde. Parmi toutes les maladies chroniques, c'est la seule maladie dont la mortalité augmente. Et d'après l'OMS, il est estimé que d'ici 2030, la BPCO sera la troisième cause de mortalité à l'échelle mondiale. Les exacerbations représentent une complication fréquente de la BPCO. Elles nécessitent souvent le recours à une consultation et très souvent à l'hospitalisation. Et d'après Gold, l'exacerbation correspond à une aggravation aiguë de l'état du malade par rapport à sa situation stable, nécessitant une modification de son traitement habituel. Les exacerbations représentent un facteur de mauvais pronostic pour la BPCO, indépendamment de la gravité de la maladie. Pourquoi ? Parce que la survenue d'une exacerbation accélère le déclin de la fonction respiratoire. D'autre part, le coût des exacerbations est important en termes de prescription d'antibiotiques, de traitements inhalés ou d'hospitalisation. Et les exacerbations ont un impact négatif sur la qualité de vie et la survie de ces patients. Et vous voyez ici, comme l'a très bien dit notre modératrice, que les exacerbations de BPCO peuvent survenir à n'importe quel stade de gravité de la maladie, que les patients si les patients ont une BPCO légère, modérée ou sévère, donc vous voyez, on a presque le même nombre d'exacerbations dans les deux cas. Là, vous voyez, deux mois après une exacerbation aiguë de BPCO, il y avait toujours une diminution de la capacité inspiratoire, donc une augmentation de la capacité résiduelle fonctionnelle, donc une distension pulmonaire, donc une dyspnée, et donc pas de récupération de la fonction pulmonaire après exacerbation aiguë de BPCO. Pareil, en ce qui concerne la qualité de vie, vous voyez que les scores du questionnaire respiratoire de Saint-Georges restaient toujours élevés. Ce score évalue la qualité de vie des patients. Ils sont toujours élevés après une exacerbation aiguë de BPCO en bleu par rapport aux patients qui n'avaient pas fait d'exacerbation aiguë. Et donc, il n'y a pas de récupération de l'altération de la qualité de vie après une exacerbation aiguë de BPCO. Et pour la survie, vous voyez que chez les patients qui faisaient des exacerbations les patients qui faisaient des exacerbations ici en B et en C avaient une diminution de la probabilité de survie par rapport aux patients qui ne faisaient pas d'exacerbation. Et donc, on a une augmentation de la mortalité après exacerbation aiguë de BPCO. Et pour le coût, vous savez tous que le coût du traitement de la BPCO est déjà très important et la survenue d'une exacerbation augmente le coût du traitement de la BPCO. Et plus le nombre d'exacerbations augmente, ici en bleu, plus le coût du traitement de la BPCO augmente. C'est pour cela que l'un des objectifs du traitement de la BPCO est de prévenir les exacerbations, parce que je viens de vous montrer que les exacerbations ont un impact négatif sur la qualité de vie de ces patients. Il faut bien sûr soulager le malade, améliorer la tolérance à l'effort, améliorer sa qualité de vie, mais il faut aussi prévenir et traiter les exacerbations. J'ai deux plaques sur le tabagisme. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à notre modératrice. Vous savez tous que l'arrêt de l'intoxication tabagique est la seule mesure efficace capable de prévenir la maladie et de ralentir son évolution. Vous connaissez tous le diagramme de Fletcher, évolution du VEMS en fonction de l'âge. Vous voyez, chez les non-fumeurs, on a une diminution de 20 à 30 ml de VEMS par an en fonction de l'âge, alors que chez les fumeurs, ici en orange, la diminution est de 90 ml par an. Et si on arrête de fumer, il y a une tendance vers un ralentissement du déclin de la fonction respiratoire. Donc même si on arrête de fumer ici à 65 ans, on a toujours un gain en VEMS. Donc il faut toujours dire à nos malades d'arrêter de fumer. En ce qui concerne le traitement pharmacologique, vous voyez que les anticholinergiques de longue durée d'action sont présents à tous les stades de la BPCO, que la BPCO soit de grade A, B, C ou D, il y a une place pour les anticholinergiques de longue durée d'action. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des bronchodilatateurs qui améliorent les symptômes et surtout, ils diminuent les exacerbations. Plusieurs études ont confirmé l'efficacité du tiotropium dans la prévention des exacerbations de BPCO. Ces études ont été réalisées avec le tiotropium Respimat ou Handihaler. Je vais vous montrer quelques-unes de ces études. Dans cette première étude, vous voyez qu'il y avait une diminution du nombre d'exacerbations aiguës de BPCO en bleu dans le groupe tiotropium par rapport au jaune dans le groupe placebo et une diminution aussi du nombre d'hospitalisations pour exacerbations aiguës de BPCO. L'étude Uplift, c'est une des plus grandes études qui a été réalisée avec le tiotropium. C'était un essai clinique de 4 ans, international, multicentrique, randomisé en double aveugle, placebo contrôlé, sur 4 ans, et qui a porté sur 6000 patients. Et vous voyez une réduction de 14% du risque d'exacerbation aiguë. Et le tiotropium retarde l'apparition de la première exacerbation aiguë de BPCO de 4,2 mois. Une autre étude, là, cette étude a été réalisée avec le tiotropium Respimat, il y avait 31% de diminution du risque de survenue d'exacerbation aiguë dans le groupe tiotropium en vert par rapport au placebo. L'étude POET, aussi, c'est une grande étude. C'était une étude comparative qui a comparé le tiotropium au salmétérol sur les exacerbations aiguës de BPCO. C'était la première étude qui a comparé un anticholinergique de longue durée d'action, le tiotropium, à un bêta-2 agoniste de longue durée d'action, le salmétérol. C'était aussi une étude multicentrique, internationale, randomisée en double aveugle, de groupe parallèle sur un an, portant sur plus de 7000 patients, âgés de plus de 40 ans, fumeurs, avec un tabagisme à plus de 10 paquets années, qui avaient une BPCO modérée à sévère et qui avaient fait au moins une exacerbation dans l'année précédente. L'objectif, le critère d'évaluation primaire de l'étude était de voir le délai d'apparition de la première exacerbation. Les objectifs secondaires étaient de voir les caractéristiques de ces exacerbations, le nombre d'exacerbations, la tolérance au traitement et la mortalité. Vous voyez ici, en bleu, le groupe qui a été randomisé au traitement par tiotropium, il y avait une diminution de 17% du risque de survenue d'exacerbation aiguë de BPCO par rapport au salmétérol et une diminution de 28% d'exacerbation nécessitant une hospitalisation. L'étude INSPIRE, aussi c'est une étude comparative. Là, ils ont comparé le tiotropium et l'association salmétérol-fluticasone sur les exacerbations aiguës de BPCO. Vous voyez ici, après 2 ans, il y avait 59% d'exacerbation dans le groupe tiotropium, 62% dans le groupe salmétérol-fluticasone. Donc les chiffres étaient similaires. En moyenne, 32 exacerbations par an dans le groupe tiotropium, 1,28 dans le groupe salmétérol-fluticasone. Donc le taux d'exacerbation de BPCO était similaire dans les deux groupes. Ça, c'est la dernière étude. Aussi une étude comparative qui a comparé l'indacaterol au tiotropium, l'indacaterol 1-bêta-2 agoniste de longue durée d'action. C'était aussi une étude randomisée multicentrique en double aveugle de 52 semaines sur plus de 3000 patients. L'objectif primaire de l'étude était de démontrer la non-infériorité de l'indacaterol par rapport au tiotropium sur l'amélioration du VEMS à la 12e semaine de l'étude. Et l'objectif secondaire était aussi de voir la non-infériorité du tiotropium par rapport à l'indacaterol sur les exacerbations aiguës de BPCO. L'objectif primaire de l'étude a été atteint, donc il y avait une non-infériorité du tiotropium par rapport à l'indacaterol, mais l'objectif secondaire n'a pas été atteint et il y avait légèrement plus d'exacerbation aiguë de BPCO dans le groupe indacaterol en jaune par rapport au tiotropium en bleu. Donc, pour conclure, je vous ai montré que les exacerbations ont un impact négatif sur la qualité de vie et augmentent la mortalité des patients qui ont une BPCO. Et le tiotropium, il prévient ces exacerbations, donc prévient le risque futur de la BPCO. Je vous remercie.
Merci, Dr Joachim, pour cette présentation claire, précise et succincte. Nous allons laisser la discussion jusqu'à la fin. Et avant de faire passer la présentation à Dr Hassali, je vais vous demander encore une fois de répondre à des questions et voir si vous aurez les réponses dans la présentation de Dr Hassali. Donc, if you please, can you put the first question?